Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur Academ l'humoriste, mais pas que, Rosa Burstein. Elle aurait pu se contenter d'être humoriste, cela nous aurait suffi, d'être actrice, cela nous aurait suffi aussi, repérée par John Malkovich tout de même. Elle aurait pu ne faire que du stand-up, cela nous aurait suffi, mais non, elle est devenue reine du stand-up, actrice épanouie, réalisatrice de podcasts, chroniqueuse radio sur France Inter et écrivaine. Et même cela nous aurait suffi. Mais non, elle publie chez Grasset ce livre. La peur au ventre sort dans quelques jours. Rosa Burstein, bonjour.
Bonjour Laurence.
Vous allez bien ?
Super.
Alors du coup, cette enfance avec des parents intello et juifs, ça a donné quoi ? C'était très présent, par exemple, dans votre vie ?
Moi, je viens d'une famille, juive de gauche. Les deux étaient assez liés parce que mes parents étaient extrêmement politisés. Donc en fait, il y avait toujours des débats, que ce soit sur la religion, sur Israël ou sur l'actualité. Et mes parents se fâchaient, s'engueulaient avec leurs potes. Et je me souviens de dîners enflammés. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un rapport un petit peu, où la religion était importante, mais où on était aussi fiers d'être des mauvais juifs qui jeûnent pas, qui bouffent pas cachère. Enfin, il y avait vraiment... Et puis mes parents ont deux héritages très différents. Mon père, ses deux parents étaient juifs, polonais, résistants et communistes, donc plutôt anti-religieux, même si mon père a fait sa bar mitzvah. Et ma mère a découvert tard son judaïsme par sa mère et elle a reçu une éducation catholique et son père était catholique. Donc elle, plutôt finalement le judaïsme, a été insufflé par ma mère qui avait besoin de ce retour, de cette présence qui nous a mise au Talmud Torah très très jeune et qui était un peu la garante en fait de la tradition dans la famille. Alors que mon père, c'était tellement naturel que finalement il aurait pu peut-être faire moins. Et c'est via ma mère, à cause ou grâce à ma mère, que j'ai fait ma bat mitzvah à 11 ans et j'étais déjà prête depuis des mois et je l'ai un peu vécu comme une thèse, quoi. J'étais tellement à l'avance qu'ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait des exégètes qui défilaient à la maison pour me donner une énième interprétation de ma paracha. Et elle, ma mère, faisait la bat mitzvah qu'elle n'avait pas eue avec moi.
Du coup, c'est un judaïsme extrêmement présent, extrêmement... religieux, extrêmement laïque.
Laïque, pas du tout religieux.
Pas du tout religieux.
Il n'y a pas de croyance en Dieu.
Il n'y a pas de croyance en Dieu.
Il n'y a pas de croyance en Dieu. Ça, c'était très clair depuis que j'étais toute petite. Le Dieu n'existe pas, le Père Noël non plus. Voilà, donc c'est vraiment très vite, c'était posé sur la table.
Mais la bat mitzvah,
très important. Oui, la bat mitzvah, et à vrai dire, mes parents m'ont toujours dit, c'est le rabbin Fari qui les avait mariés, qui avait dit, je suis heureux de marier deux juifs non-croyants. Donc c'est vraiment... Et puis, et moi, ensuite, en recevant Delphine Horviller dans mon podcast et en allant l'écouter, très vite, ce que j'ai aimé, c'est que la question de Dieu n'était pas centrale de la croyance. Voilà, c'était toujours plutôt la question du livre, des questions, et de tout ce qui est autour du judaïsme, dans les contradictions, le rire, l'héritage culturel, culinaire.
Aussi culinaire, oui.
Culinaire comme on peut en tant qu'ashkénaze, limité.
Tu te rappelles de ta paracha ? Du nom de ta paracha ou en tout cas du sujet ?
Écoute, tu veux savoir ce dont je me rappelle ?
Oui.
C'est que j'étais super prête et que les gars derrière moi faisaient du playback, en fait, sur les prières. J'étais la seule fille, j'avais 11 ans, ils avaient 15 ans, les trois mecs derrière. Et que au moment de porter les tables de la loi, c'est bien ça.
Ouais,
je suis vraiment... une mauvaise juive, mais je me souviens de ces magnifiques rouleaux et de ce velours et de ces dorures, et que le rabbin les a donnés à un garçon qui est passé devant moi et que j'ai pas pu les porter. Et donc ça a été mon traumatisme de bat mitzvah. À ce moment-là, j'ai vu la Torah m'échapper. Et je crois que voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, maintenant les filles peuvent porter la Torah et celles qui font leur bat mitzvah, mais moi tu vois, du haut de mes 37 ans, peut-être ça rompt, peut-être qu'à l'époque, ils donnaient plutôt la Torah aux garçons. Et résultat, j'avais vécu ça comme une grande injustice après mes années de travail, ma bat mitzvah thèse. Non mais voilà, et c'est toujours évidemment un angle sur lequel, tu vois, j'aime aussi beaucoup le Rabbi Étienne de la synagogue de Pauline Bebb. Oui. Et il sait à quel point pour moi le féminisme est important. Et je lui dis, ce qui, moi, me pose problème dans le fait de croire en Dieu, c'est de genrer Dieu au masculin. Et il m'a dit, mais pense à une source de vie. Et depuis qu'il m'a dit source de vie, je suis beaucoup plus spirituelle. Je fais beaucoup plus de prières. Parce que, enfin, alors c'est pas tellement des prières parce que j'aime pas demander quelque chose, je trouve qu'on est déçu si on le reçoit pas, mais plutôt avec mon mec, on fait des exercices de gratitude, tu vois, pour essayer de voir le positif. Et donc on remercie source de vie pour aujourd'hui, il y a eu du soleil, notre fille est en bonne santé, on adore notre assistante maternelle, et voilà, et le fait que, et voilà, c'est là où se situe un petit peu...
L'esprit divin.
Ouais.
Tout ton humour n'est pas particulièrement tourné vers le judaïsme, on pourrait presque te voir dans plein de choses, et ne pas spécialement se douter que tu es juif, sauf peut-être...
Mon nom.
remplacer le J par le I. Yeah. Oui. Histoire de franciser un peu le nom, c'est ça.
Il y a eu tellement d'orthographes différentes de mon nom de famille et j'ai certains membres de ma famille qui ont pris le I à la place du J, d'autres qui ont gardé le J. À un moment, il y a eu un Y dans des différents passeports. Oui. Le J est très polonais, en effet. On va dire que le I est plus allemand. Dans mon humour, dans mes spectacles, il y a beaucoup d'humour juif. C'est évidemment que ça imbibe tout mon travail et que j'ai beaucoup d'influence. Mais en fait, mon influence, c'est un humour new-yorkais pour le stand-up. Oui. Et l'humour new-yorkais est lui-même quand même très inspiré d'humour juif. Et t'as des humoristes non-juifs qui utilisent des mots de yiddish, en fait, dans leurs blagues. Donc, en fait, je dirais que de mon influence américaine et new-yorkaise, en fait, c'est une influence juive. Et donc, voilà, l'autodérision et le fait de se moquer de soi en premier... c'est là, mais ensuite, évidemment, que ça s'adresse à un public large, heureusement, parce que si je m'adressais qu'aux juifs...
Non, bien sûr, mais, mais voilà, c'est, en soi, n'est pas un sujet, mais par contre, c'est la manière c'est la manière de faire de l'humour. Alors, les 4 skills, tu connais par cœur.
Oui, tout le monde a vu Mrs. Maisel, je ne sais pas, mais oui,
si.
Bien sûr.
Enfin, c'est... tout le monde peut-être pas, mais ceux qui ne l'ont pas vu ont de la chance, ils peuvent encore le découvrir.
Exactement.
Et on peut le redécouvrir, c'est à l'infini.
C'est magnifique. C'est
infiniment drôle.
Ouais.
Mais tu aurais une définition, peut-être, de ce qu'est l'humour juif? Évidemment, l'autodérision, mais si tu avais envie d'aller un tout petit peu plus loin.
Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est Delphine qui dit « Les blagues juives sont des blagues antisémites dites par des juifs ». Il me semble, alors attention, à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que j'adore la question de l'autodétestation. Et ça, c'est très fort aussi chez Larry David dans « Curb Your Enthusiasm ». Pour moi... il n'y a pas, il y a un sentiment d'appartenance, mais il n'y a pas un sentiment de fierté.
Oui.
C'est très différent. Et j'adore dans une saison de Curb, quand Larry David rencontre plein de diffuseurs, de plateformes, de chaînes pour sa prochaine série. Et puis, il en rencontre un qui veut absolument connecter uniquement sur le judaïsme. Et Larry David se plaint à son manager chéri, « Too Jew ». Tu sais, il est trop juif, trop juif. Et c'est vrai que parfois... Et voilà, c'est un peu toujours la même chose quand on est en France, on en a marre des Français, puis dès qu'on est à l'étranger, la France nous manque. Je ne sais pas s'il n'y a pas parfois le même sentiment en tant que juif, tu vois. C'est quand on est entouré de goy qu'on se dit « mon Dieu, mais en fait, je suis juive ». Et quand on est entre juifs, on est là « bon, je ne supporte plus ».
C'est vrai. Il y a un côté très cash d'abord, très cru, très sexe. Très franc, très sincère. C'est comme, je trouve qu'il y a quelque chose d'un humour c'est du quotidien, mais qui transcende un peu chaque chose. Et puis, en même temps, il faut être sacrément, je dirais, centré pour pouvoir être cash comme tu l'es. C'est presque l'apanage des humoristes hommes. Et je trouve que là, tu prends une place qui n'est pas si souvent occupée.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup, la parole, de manière générale, était beaucoup aux hommes. Et c'est vrai que la parole sexuelle aussi, pendant tout un temps, les hommes avaient le droit d'être potaches, de faire des blagues un peu en dessous de la ceinture. Et d'un coup, quand les femmes se sont mises à avoir une parole sur la sexualité, en fait, on était taxés d'être vulgaires, trash. Alors qu'en fait, c'était avec nos mots, notre humour, et puis d'un point de vue féminin. Donc, en fait, l'idée, c'était de renverser le... Ah, Bobonne fait semblant d'avoir une migraine quand je vais y retourner. Non, en fait, une parole sur, au contraire, la complexité de notre désir.
Le plaisir féminin.
Et l'importance de ça, et l'indépendance aussi de ça vis-à-vis des hommes. Donc oui, c'est tout ça que j'aime bien creuser. Et je pense que c'est aussi certainement le fruit de mon éducation. Il n'y avait pas de tabou autour de la sexualité. Ma mère était vraiment féministe. Tu vois, elle était au black dans les mouvements féministes. Très vite, voilà, mes parents m'ont dit « prends du plaisir, mais protège-toi ». Ce qui était important, c'était de se protéger. Mon père me disait, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, mais que dans la Torah, tu pourrais demander le divorce si ton mari ne te donne pas de plaisir ou je ne sais pas, ou l'orgasme. Il y a un truc autour de ça, du plaisir. Oui. En tout cas, ce n'était pas du tout un tabou. Et mon père n'avait pas du tout... peur des autres hommes comme des prédateurs ou des petits copains, j'avais le droit d'avoir une vie, de sortir, j'étais pas fliquée. Et le fait qu'il n'y ait pas du tout d'interdit, je pense que c'est aussi comme ça que je me suis épanouie. Mm-mm. Tu vois, sans. Donc c'est vrai qu'après, ensuite, ça reste une découverte, mais il n'y a pas. J'ai pas de. Peut-être que j'ai même une forme d'impudeur là-dessus.
Je me suis posé la question de la pudeur, et puis je me suis dit que, en fait, non, c'était pas une question. Que je sais pas si c'est. Parce qu'on peut prendre un contre-pied.
C'est vraiment que le coup, tu vois un truc différent entre Ashkenaz et Sépharad.
Ah oui.
Parce que vraiment, je pense que mes blagues, je les faisais en toute liberté, jusqu'à ce que maintenant je sache que potentiellement mon beau-père puisse les entendre, tu vois. Et là, c'est pas Bernstein, c'est Alouche, tu vois. Et donc là, et c'est une oreille, voilà, en effet, beaucoup plus pudique, où la question du sexuel, en effet, est pas du tout placée au même endroit. Moi, j'ai en effet grandi dans une famille de 68ards, très libre. Et donc, maintenant, je marche un peu plus sur des œufs, ou j'ose, et puis je me dis, c'est comme ça, écoute, ça décomplexe tout le monde.
Au contraire, ça libère aussi les séfarades.
Ouais, exactement, qu'ils se libèrent.
Qui étaient tes grands-parents, tu les as connus, et ils avaient déjà ça, c'est des gens rescapés, ils avaient déjà cette liberté-là.
Les parents de mon père, j'ai pas eu la chance de les connaître, hélas, et j'ai connu les parents de ma mère, j'étais pas très proche de mon grand-père, de son père. Mais par contre, j'étais très proche de ma grand-mère, sa mère, que j'aimais énormément, mais qui, elle, avait un rapport très complexe à ses origines. Et puis, par contre, sur la question du désir, elle aimait bien l'humour, elle était très drôle. Elle m'a énormément encouragée vers l'écriture. Et puis, elle n'était pas féministe pour un sou, mais je me souviens... que je lui avais parlé d'un de mes premiers petits copains et elle m'avait dit « Surtout, prends ton temps, te marie pas trop vite. »
Oui, qui était quand même message
un message
encourageant pour la liberté.
Et pour rapport à là d'où elle venait, c'était vraiment... Donc au contraire, elle, c'était pas du tout « faut que Rosa se marie, c'est attention !» Attention à
prends
qui elle
se... Prends ton temps, choisis bien, et donc vis des expériences, et donc vis une sexualité.
Je ne sais pas si dans sa tête ça allait jusque-là, mais en tout cas, c'était fais attention et prends ton temps, Et c'était pas à tout prix, il faut la caser, quoi. Mais donc, j'adorais ma grand-mère,
Mais quand même, ton choix amoureux, c'est un bon séfarade.
Alors là, tu rigoles. Oui, alors si j'ai... Mon propre antisémitisme s'exerce surtout à l'égard des séfarades. On se charrie beaucoup. Moi, je ne cherchais pas spécialement à être avec un mec juif. J'ai été avec des juifs, des non-juifs. Plutôt au contraire, j'étais plutôt avec des non-juifs. Mais à chaque fois, quand je me faisais larguer, finalement, ma manière de me conseiller, c'était « de toute façon, il est goy ». Tu vois, je me disais « bon, peut-être que c'est… » Et puis, Mickaël, c'était surtout, en fait, ce qui nous a… En effet, le fait de rencontrer un juif de gauche, ça, pour moi, c'était… Et pour nous deux, c'était vraiment très précieux parce que… parce que toutes les engueulades de ces dernières années qui peuvent avoir lieu avec, entre juifs et avec, entre gens de gauche.
Alors, tu en parles dans ton livre, vraiment. Revenons, venons-en au livre, parce que c'est un magnifique livre. Bon, je dirais tout à l'heure, La peur au ventre. J'ai trouvé que, comme on n'avait ni ton rire, ni le ton que tu as quand tu es sur scène ou quand tu es à la radio, sur France Inter, mais là, on a ta parole à nu, toujours aussi sincère, franche, mais on n'a plus ce rire, plus ce sourire. Donc, on a, c'est comme un accès différent à ce que tu vis. C'est-à-dire qu'il y a toujours
ce... Il y a un sourire. Tu vois, quand je fais typiquement dans le chapitre, comment dire, une comparaison où je dis je veux être la pique-me des goyes, c'est une écriture inspirée du stand-up,
oui.
Un peu dans le fait de créer un peu de la provoque. Mais il n'y a pas les vannes, parce qu'en fait, le système de trouver une blague, c'est comme une pirouette où on échappe à la vérité par la pirouette, par la blague qui monte. Alors que mettre un point, comme j'essaie avec le livre, c'est comme tu dis, c'est la mise à nu qui est plus totale et qui parfois prend le chemin, en effet, de tenter une voie plus découverte.
Moi, je me suis dit, comment elle va continuer à faire de l'humour et être aussi drôle, alors que maintenant, elle a un super mec. Elle a un super... Ah, alors, on fait comment ?
Est-ce qu'on peut être drôle
mais en fait, oui.
Oui.
Mais en fait, je vois que complètement...
L'humour dans le livre, il passe beaucoup par aussi le personnage de ma mère, tu vois, par sa, comment dire, quand elle est persuadée que tous les chanteurs ont trompé toutes les femmes, ou fait, en fait, ses excès, ses dialogues, ou voilà, quand elle regarde l'amour est dans le pré, j'ai essayé à travers elle de montrer voilà, son regard, ou même dans les chapitres difficiles où je parle de sa maladie, en fait souvent elle est drôle, en fait, dans le tragique c'est parfois là où elle est le plus drôle, quand elle dit qu'elle aurait préféré avoir un cancer des pieds plutôt qu'un cancer du sein parce qu'elle trouve que ses pieds sont moches et qu'elle aimait ses seins, tu vois, c'est ça que j'essaie, mais en effet c'est plus sensible.
C'est plus sensible quand elle dit... que le saucisson, c'est la meilleure partie, c'est la partie
cachère
du porc. Franchement, voilà, ça s'invente pas.
Non, c'est très ashkénaze.
Mais alors, cette histoire de faire un enfant, faire un bébé avec cet homme, avec Michael, et tu as eu envie spontanément d'écrire le livre, c'était évident, c'est une continuité, c'est juste une autre façon de te raconter et d'aller chercher l'autre. Qu'est-ce qui te stimule aussi dans raconter des choses de ta vie, ton intime,
En fait, l'écriture du livre, j'en avais écrit un précédent.
Oui.
Et en fait, à chaque fois, c'est quand même aussi via l'impulsion d'éditeurs. Le premier, c'était Laurent Beccaria qui m'avait écrit en pensant qu'un livre était possible. Et c'est comme ça que j'ai écrit Les mecs que je veux ken, qui porte le nom de mon podcast, mais qui est un premier récit autobiographique, qui est surtout, au final, sur mon père. Et ce deuxième, La peur au ventre, et celui-ci, au final, même si ça parle de désir de maternité, c'est quand même un livre sur ma mère, en fait, beaucoup.
Ah ouais,
et c'est vrai que après mon premier livre, finalement, j'ai mis du temps, j'avais envie d'écrire, puis d'un coup, en fait, j'ai aussi reçu le texto de Madeleine Thompson, mon éditrice.
D'accord.
Un magnifique message, et en fait, c'est le point de départ où elle me donne envie et me donne confiance pour écrire à nouveau, et c'est le regard de quelqu'un qui va m'accompagner, et puis au début, moi, je voulais faire vraiment un roman, un thriller, tu vois, mais bon, quand même, j'avais aussi envie de parler des femmes, et puis finalement, je me suis dit, non, je vais faire ce que je sais faire, parler de moi en espérant que ce soit le plus universel possible. Et puis par contre, le précédent livre était un peu fracturé en plein de chapitres. Et là, j'essaie de retrouver une chronologie, d'essayer de mettre en scène de manière harmonieuse, en fait, toute une période de ma vie. Et c'est vrai que celui-ci, c'est pas du tout encore un livre sur la maternité, c'est plus un livre sur ma mère et sur moi, sur ma vie en suspens, dans ce moment qui est dans l'attente de se réaliser en tant que mère. Mais
oui.
La peur au ventre, c'est parce que c'est, en effet, ça part de l'expérience des fausses couches.
Oui.
Et donc, c'est un livre où il y a trois grossesses, mais il n'y a pas l'accouchement dans le livre. Il n'y a pas l'après, il y a un épilogue de trois phrases.
Oui.
Mais sinon, c'est mon enfant est fantasmé dans le livre. C'est l'enfant que je rêve d'avoir. Et je me demande si je peux accéder, moi, à mon tour, à ce statut de mère.
Et il y a ce tissage entre vie et mort en permanence. Et dans les grossesses inachevées et dans la belle maman qui décède, enfin des gens autour de toi la maladie, etc. Donc ça se tisse dans une grande harmonie parce qu'il y a de la respiration, on n'est pas assailli ou étouffé, on a l'espace de prendre ça, mais c'est très subtilement tissé effectivement.
Oui, tu as raison. La vie et la mort sont là et c'est vrai que c'est aussi un livre sur la malédiction, quoi. Est-ce que je suis maudite et sur la peur du jamais 203 et c'est ça qui est et en effet et sur cet effet boule de neige quand un malheur nous tombe dessus, est-ce que d'autres vont tomber à la suite, comment on renverse le sort, comment on décide autre chose pour soi et finalement comment on est le récit qu'on fait de nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je tente, à travers ce livre, de résister. Alors, parfois, je m'enfonce dans une pensée très négative où tout est dramatique, que ce soit au niveau personnel que professionnel, où je n'obtiens pas ce que je veux.
Ouais.
Et puis, à un moment, j'essaie de trouver la lumière quand même.
Une dernière chose, quand même, qui est importante, que tu abordes dans le livre, qui est la question de la guerre, du conflit, qui n'est pas abordé frontalement ou pas longtemps, mais dont tu parles un peu, ou en tout cas, si tu ne fais pas écho dans le livre, parce que j'ai revu beaucoup de sketchs, il y a cette question-là, mais ça, c'est abordé sur un petit chapitre en deux pages. C'est quand même là, et compliqué d'être
la
juif
solitude,
de gauche,
ouais.
La solitude du juif de gauche
depuis
le 7 octobre 2023.
La même
solitude,
avant, en fait, hein, mais
oui, avant,
mais là, c'est vraiment,
ça a pris une proportion. Mm. Du coup, c'est de l'ordre de l'intime, mais de cet intime-là, plus pudique.
Oui. De toute façon, moi, ce que j'aime creuser, ce sont mes contradictions, et puis après, évidemment qu'on est dans une période de disputes, de groupes WhatsApp, où certains quittent le groupe, d'autres viennent. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, ce qui est peut-être particulier en tant que juive. Je pense qu'à un moment, parfois, on est à un stade aussi où dans les familles, où on ne veut plus en parler parce qu'on a peur de se blesser, de se faire du mal, qu'il y a eu un temps pour la colère, la tristesse, que parfois, finalement, oui, c'est vrai que le titre de mon spectacle s'est dédoublé, et je crois que dans le livre, je dis, est-ce que je, en tant que juive, je me sens dédoublée dans mes discours et dans ce que je peux montrer, dans ce que je dois dire, et on a, est-ce qu'on va avoir un débat quand on rencontre une nouvelle personne et qu'elle nous dit quelque chose, et où est-ce qu'on va laisser passer. Je pense que c'est au-delà de juif de gauche, peut-être qu'il y a quelque chose aussi profondément de juif français, dans notre histoire, dans notre identité, dans nos contradictions immenses, quoi. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un héritage et un quotidien qui, j'imagine, est très particulier et très différent de celui, je ne sais pas, d'être juif aux États-Unis, à New York ou à Tel Aviv.
Oui.
Et c'est vrai que, voilà, dans ma famille, je me souviens du récit d'une grande tante qui me racontait ce souvenir, en fait, d'avoir dû porter l'étoile jaune et du discours de la maîtresse. Et elle, au départ, presque d'un sentiment de fierté, ne comprenant pas que c'était discriminant, voulant accomplir un devoir de française. En fait, c'est ça. Et vraiment d'un décalage aussi, je crois, et entre l'amour des Juifs pour la France et parfois la peur des Juifs pour la France. Il y a quelque chose qui est très trouble Mais en fait, c'est magnifique, mais c'est vrai que... mais c'est vrai que c'est dur et que parfois c'est violent, mais moi je suis, malgré l'histoire ou le quotidien ou tout, très patriote. Je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs qu'à Paris. J'adore la littérature française et je déteste les discussions de « bon, où est-ce qu'on va partir ?» Tu sais, quand les gens imaginent le pire en 2027, « bon, bah alors, il y a Trump aux États-Unis, on va aller où ? Est-ce que la solution, c'est finalement la Thaïlande ?» C'était ça, dans les copains, les dîners, on partirait où ? Moi, je déteste. Je dis « mais non, mais moi, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir, en fait, quel que soit. » Et donc voilà, c'est une identité qui est complexe. Et de toute façon, on ne mettra pas de juifs d'accord, hein. Quel que soit leur bord politique. Mais c'est vrai que ces désaccords se sont creusés et creusés et creusés et creusés. Et qu'il y a ce moment dans les dîners où on dit « bon, allez, on change de sujet ». Parce que même au sein des juifs de gauche, il y a de grands désaccords. Au sein de la gauche, il y a de grands désaccords. Et bon, et finalement, c'est évidemment toujours positif, le débat... plutôt que le dogme, quoi. C'est vraiment en plus ce qui nous... le souci, d'ailleurs, n'est pas qu'à gauche. Enfin, je veux dire... d'ailleurs, je le dis, hein. Je dis, enfin, si on rentrait dans le problème des juifs d'extrême droite, il y a un gros problème.
Oui.
Donc, voilà.
Sur scène aussi, d'ailleurs, il y a des sketchs.
Oui, voilà. Donc j'en fais des vannes. Et je pense, en fait, que finalement... en général, je suis à un endroit, où, à un 360, finalement, où je peux être l'objet de haine de la part d'une extrême droite, néo-nazie, facho, grand remplacement, comme je peux, en effet, subir des attaques de la part d'une certaine gauche antisioniste qui me cible comme l'ennemi, comme quelqu'un qui n'a pas le bon positionnement, les bons mots, mais je peux aussi être évidemment la cible de juifs d'extrême droite qui, si jamais je critique le gouvernement israélien, vont venir me harceler. Et bon, alors après, est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut... qui est-ce qu'il faut protéger, en fait, dans toutes ces histoires ? Sa communauté, un parti ? Qu'est-ce qu'il faut dénoncer, en fait ? Donc, c'est très... c'est une question très complexe.
Merci beaucoup et reviens vite.
Avec plaisir.
Merci Rosa.
Merci.